Lors du culte de Pâques, il y a un mois à peu près, je vous disais que l'évangile de Marc n'avait pas besoin d'être complété au-delà de sa finale d'origine, le verset 8 du 16e chapitre, et la mention du silence et de la peur des femmes. L'évangile de Marc est tout à fait bien terminé au verset 8, il est même plutôt tout à fait bien ouvert. Eh bien, voici aujourd'hui un extrait de la finale longue, celle qui a été rajoutée dans le courant du IIe siècle en condensant des éléments de des autres évangiles. Il y a la mention d'une apparition du ressuscité à Marie de Magdala, comme dans l'évangile selon Jean, et puis une autre apparition à deux hommes qui vont à la campagne. On peut entendre un écho du récit des pèlerins, des chemins, de ceux qui sont en chemin vers Emmaüs dans l'évangile de Luc. Et ces trois témoins ne sont pas crus par les 11 disciples. Et puis il y a ensuite les versets que nous allons lire. Et si c'est ce texte qui porte la prédication pour ce dimanche, c'est qu'il fut prêché le jour de l'ascension 1726, de l'année 1726 à Leipzig. La célébration au cours de laquelle, pour laquelle, Jean-Sébastien Bach avait composé la cantate qui sera jouée au cours du culte de cet après-midi. Voici donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 14 à 20. Enfin, Jésus se manifesta aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha sévèrement leur manque de foi et leur obstination, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après son réveil. Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, pour ne pas en rester sur le silence et sur la peur des femmes au tombeau vide, l'auteur de la finale longue commence par un échec et une réprimande. L'échec, c'est celui du témoignage de Marie de Magdala et de deux hommes auxquels le ressuscité est apparu. Et donc, le récit commence avec une nouvelle apparition du ressuscité aux 11 disciples avant d'être enlevé au ciel, c'est-à-dire de ne plus être présent physiquement, matériellement dans le monde, avant de ne plus pouvoir être vu par des yeux ni touché par des mains. Le ressuscité est désormais absent. Mais cette absence n'est pas un abandon. Elle n'est pas une absence vide qui laisserait les disciples livrés à eux-mêmes, à leurs regrets ou à leurs remords, à leurs souvenirs, au désarroi ou à la déception. En effet, les paroles qui sont adressées aux disciples par Jésus-Christ portent en elles de quoi orienter et remplir leurs existences et celles de tous ceux qui veulent être disciples du Christ vivant. Mais c'est donc par une réprimande que cela commence. Une réprimande sévère. Jésus reproche aux 11 leur manque de foi et leur obstination, littéralement leur incrédulité et leur cœur de pierre, on dirait plus facilement, la dureté de leur cœur. Et cela parce qu'ils n'ont pas cru les trois témoins des précédentes apparitions, Marie de Magdala, puis les deux hommes qui étaient en chemin. Et pourquoi les onze ne les ont-ils pas crus ? Alors nous pouvons penser que, d'un seul cœur, unanimement, ils ont tous fait leur Thomas. On ne croit pas ce qu'on ne voit pas. Ou alors, qu'ils n'ont pas cru les trois témoignages parce que ces trois témoignages n'étaient pas concordants. En effet, le ressuscité s'est manifesté aux deux hommes sous une autre forme qu'à Marie de Magdala. Et il est vrai que les récits d'apparition du ressuscité dans le Nouveau Testament témoignent d'une multiplicité de formes et de manières pour le Christ vivant d'apparaître à des disciples. Tantôt il est reconnu, tantôt il ne l'est pas. Tantôt le texte insiste sur sa dimension corporelle, il le fait même manger avec les disciples. Tantôt il le fait surgir d'un coup au milieu d'un groupe dans une pièce fermée. Tantôt le ressuscité est visible avec un corps, tantôt il est seulement audible dans une lumière éblouissante. Cette diversité invite à ne pas nous crisper sur une seule manière de comprendre comment est le ressuscité, et cela nous invite à accueillir la diversité de témoignages de foi avec une souplesse d'esprit qui résiste aux oppositions simplistes, avoir tort ou avoir raison, être dans la vérité ou être dans l'erreur, la faute ou le mensonge. Car se tenir dans cette alternative conduit à rétrécir le monde, à le découper en camps retranchés, et ça, ce n'est pas du tout le monde ouvert par l'évangile du Christ vivant. L'incrédulité et la dureté du cœur que le ressuscité reproche aux onze disciples désignent en creux bien la confiance et la souplesse du cœur, la souplesse d'esprit auxquelles tous les disciples sont appelés, c'est-à-dire la foi non comme une somme d'articles, une expression fixe à croire, mais comme un cheminement et une diversité d'expressions. Et aussi un élargissement de l'esprit, capable donc de reconnaître d'autres expressions de la foi et de la vie, les reconnaître comme expressions de foi et de vie, ce qui ne signifie pas qu'il faille absolument les adopter. Et c'est avec cette ouverture de confiance et de souplesse de cœur et d'esprit que le ressuscité envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier, c'est-à-dire de vivre comme des disciples, vivre en témoignant par leur existence de ce qui les fait vivre comme disciples, de ce qui les rend parlants, agissants, aimants, présents, c'est-à-dire engagés dans le monde. Dans le monde, et l'auteur précise, dans toute la création. Et c'est bien plus que les seuls êtres humains. Ce sont aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, l'eau, la terre, la planète, l'univers. Tout cela compris comme lieu et temps où les humains reçoivent la vocation d'exercer une présence, une responsabilité particulière de veille, de vigilance, de préservation, et qui est en même temps une vocation à l'action de grâce et à l'émerveillement reconnaissant. Jésus-Christ ressuscité envoie ses disciples vivre dans la création afin qu'ils s'y comportent selon ce que lui-même a manifesté d'attention, d'amour, de soin, de disposition et de capacité à relever et à réveiller. Jésus-Christ enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu est attesté, confessé comme modèle d'accomplissement de la volonté de Dieu, comme modèle d'accomplissement de l'humanité de l'humain, suscitant et inspirant les Christs, les Messies, que sont appelés à devenir les disciples. Alors oui, bien sûr, chasser les démons, parler en langue nouvelle, saisir des serpents, boire des breuvages mortels, poser les mains sur les malades et les guérir, ben oui, évidemment, c'est cela, vivre selon le Christ, vivre en lui, vivre comme des Christs. C'est cela, notre vocation. C'est tout cela, mais pas de manière littérale, évidemment, en interprétant. Chasser les démons, c'est-à-dire repousser ce qui écrase l'humanité d'une personne, sa conscience, sa liberté, ce qui écrase sa capacité à faire confiance et sa vie intérieure. Le démon, c'est ce qui envahit l'esprit de l'humain comme une armée ennemie occupe un lieu pour y imposer sa loi, ses conditions et ses objectifs. Ce peut être un esprit de convoitise ou de compétition, un esprit d'amertume ou de peur, ou une idéologie qui altère la représentation du réel. Un esprit, non pas un être surnaturel, mais une forme d'esprit et de pensée qui prend la place de l'esprit et de la pensée libre, critique, capable d'initiative, large et ouvert aux différences et à la diversité. L'évangile de Marc donne, dans son ensemble, une large place au récit d'exorcisme de Jésus, qu'il décrit comme œuvre de rétablissement de la vie de la vie, et même comme une œuvre de recréation d'une personne dans ses relations avec elle-même, avec les autres et avec Dieu. Parler en langue nouvelle, cela ne signifie pas qu'il faille apprendre le japonais ou le lingala. Cela évoque la disponibilité à écouter, à comprendre et puis à employer des langages différents afin de s'adresser à ceux qui ont d'autres cultures, d'autres codes, d'autres références et représentations du monde, peut-être pour une question de génération, pour une question de lieu d'habitation, pour une question d'éducation. Parler en langue nouvelle nécessite de la confiance. Croire que cela ne nous met pas en danger de nous intéresser même de près à ce qui est différent. Et cela demande, cela nécessite de la souplesse de cœur et d'esprit pour reconnaître ce qui est beau et bon dans une autre culture, dans une autre manière de parler et d'être, et pouvoir ainsi entrer en dialogue. Cela nécessite aussi une maturation, le temps de comprendre et de s'efforcer d'être compris, en allant rejoindre les autres là où ils sont, sans les obliger à adopter, sans leur imposer notre propre langue. Mais c'est peut-être aussi parler en langue nouvelle, c'est peut-être aussi traduire l'Évangile qui n'est contraint par aucun langage, par aucune forme, pour parler au cœur de ceux à qui l'on s'adresse. Comme par exemple Jean-Sébastien Bach l'a fait avec le langage de la musique, comme d'autres l'ont fait et le font encore dans les multiples domaines de l'art, là où l'inspiration et la création recueillent, rassemblent, déploient et font du bien. Ensuite, il s'agit de saisir des serpents. Bien sûr, on ne se précipite pas sur le premier crotal qui passe. Il s'agit plus précisément de lever, et même d'enlever, car le verbe grec a les deux sens, ces serpents. Et peut-être même de les lever pour les enlever, c'est-à-dire de les supprimer. Et là encore, le Christ exhorte à la confiance et à la souplesse de cœur pour soulever le sable et les pierres de nos vies ou du monde et enlever ce qui est enfoui de menaces pour les humains, ce qui envenime les situations et les relations, ce qui siffle le dégoût et la peur, ce qui génère l'atroce sentiment d'être en danger. Il y en a des nœuds de vipère, enfouis sous les apparences, enfouis peut-être pour tenter d'y échapper ou de les oublier. Alors les exposer permet non seulement de les repérer, mais aussi de s'en débarrasser. Nous sommes appelés au courage et à l'espérance, au courage de l'espérance et de la foi pour mettre au jour ce qui menace l'humain et les sociétés humaines et qu'ainsi, les consciences réveillées, les responsabilités relevées, le monde devienne un peu plus vivable et la création dans son ensemble un peu plus respectée. Ensuite, boire un breuvage mortel. Et on ne va pas saisir la première coupe de ciguë qui passe, ni même se concocter une infusion de muguet, tenez, on est le 2 mai. Ça se terminerait très mal. Certainement s'agit-il plutôt de plonger dans la réalité, avec les poisons de la haine et de l'indifférence qu'instillent tant d'idéologies et de discours affolés par la diversité, la différence, la nécessité du changement. Il s'agit certainement de plonger dans la réalité avec la mort inéluctable à laquelle tant de discours proposent d'échapper à force de distraction ou d'accumulation, mais qui sont comme autant de toxines qui détruisent l'intériorité de l'être humain. La confiance, la foi, la vie spirituelle soutiennent la capacité d'être et d'être vivant. La vie de la foi, la vie spirituelle, avec la méditation des Écritures, le partage avec d'autres personnes, la prière, cela nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde et à discerner ce qui est bon et fiable pour la création. Cela nous aide à ne pas nous laisser submerger par ce qui ne l'est pas bon et fiable. Alors, poser ses mains sur les malades, les toucher. Le geste implique de se rendre proche, de témoigner de la compassion. Il signifie le refus de se résigner à la souffrance, à l'isolement, le refus délibéré de se détourner de ceux qui sont affaiblis ou fragilisés. Le geste marque un engagement de l'être et le choix de la solidarité, de la fraternité, de l'amitié envers ceux dont l'être est altéré, ceux dont la vitalité a diminué, les mains des disciples, c'est-à-dire leur présence réelle. Nos mains, nos présences réelles peuvent soulager, aider ceux qui ont perdu espoir, sens, conscience. Dans le monde, le nôtre, traversé d'angoisse et de souffrance, en proie aux violences, aux fuites, aux dénis, aux fragmentations, dans ce monde complexe et en évolution, nous sommes rendus capables, par l'autorité du Christ, de réparer, de restaurer, de soulager, de soigner en son nom, qui est un nom pour la guérison, pour le relèvement, pour le réveil, pour la résurrection de chacun. L'ascension n'oriente pas le regard vers le ciel, mais vers le monde. L'ascension n'engage pas dans un retrait du monde, mais dans une implication renouvelée. L'ascension n'invite pas à la passivité, mais elle induit une dynamique de vie et de foi. Le récit de l'ascension, l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel s'asseyant à la droite du Père, écrit en langage mythologique, un message très simple. Maintenant, c'est à nous. Amen.